Bonjour. J'avais pris la semaine dernière pour expliquer ce qu'est l'amour, l'exemple de l'amour parental. J'aurais pu faire de même en prenant l'exemple de l'amour filial, que le commandement de Dieu nous ouvre également à explorer. Honore ton père et ta mère. Continuons cependant en ce temps de la Nativité, dans la ligne de réflexion sur l'amour des parents à l'égard de leur enfant. Car c'est peut-être l'un des chemins par lequel nous pouvons mieux comprendre cet engagement irrévocable auquel le Christ invite l'homme et la femme qui veulent ainsi transformer leur union selon la volonté de Dieu pour retrouver la vocation première de l'humanité. Aussi, c'est cet homme et cette femme qui ainsi reçoivent la grâce de vivre dans leur amour même la puissance d'aimer que le Christ nous donne, nous révèle et qui l'unit à son Église. En effet, le temps de la Nativité, c'est celui où Dieu fait don lui-même de son Fils, né de la Vierge Marie, à l'humanité qu'il aime. Et nous voyons peut-être ici un exemple exceptionnel, hors du commun, hors de toute dimension, sans proportion avec la situation dans laquelle nous nous trouvons les uns et les autres, mais qu'il faut quand même considérer, puisque l'Église donne comme modèle au couple humain la Sainte Famille, dont nous savons bien qu'elle est hors du commun à tous égards. La Sainte Famille, c'est-à-dire ce couple étrange formé par Marie et Joseph, et cette non moins étrange filiation qu'est l'enfant qui naît de la Vierge Marie. C'est un exemple paradoxal, parce que, à première vue, les éléments qui aujourd'hui nous apparaissent tout à fait fondamentaux pour décrire le couple et expliquer sa nature et la réalité de sa vie semblent faire défaut, puisqu'il y a là une vocation mutuelle, un mariage, et nous ne savons rien de l'amour tel que nous le décrivons aujourd'hui dans notre civilisation. L'Évangile ne nous dit pas si Marie aimait Joseph ou si Joseph aimait Marie, au sens où actuellement dans les magazines ou dans les romans, on dit que des gens tombent amoureux. Nous n'en savons rien. On nous dit qu'ils étaient fiancés, liés, et la vraisemblance est plutôt que le mariage était, comme nous dirions-nous aujourd'hui, arrangé, puisque c'était les familles qui concluaient les épousailles. Et pourtant, nous sommes sûrs que ce qui est ainsi conclu entre Marie et Joseph est mérite, au sens le plus fort du mot, le nom d'amour. Et nous le voyons d'autant plus que dans les deux récits symétriques que nous donnent Saint Luc et Saint Matthieu, l'Annonciation à Joseph et l'Annonciation à Marie, dans les deux cas, il y a vraiment un appel venant de Dieu à recevoir l'autre de la main de Dieu, en vue d'une œuvre du salut promise par les prophètes. C'est donc une vocation divine à recevoir l'autre comme époux-épouse, en le recevant de la main de Dieu. Ne pensez pas que ce soit une perspective extraordinaire dans la tradition de la Bible. Vous connaissez bien sûr les récits notamment des épousailles, qui est souvent lu, qui est parfois lu dans la liturgie du mariage, où dans ce conte poétique que la Bible nous rapporte, ces deux époux se reçoivent chastement l'un à l'autre pour accomplir la volonté de Dieu, et les familles en reçoivent guérison et fécondité. Donc ça, cet aspect de se recevoir de la main de Dieu, comme exactement comme jadis Jacob a reçu son épouse bien-aimée de la main de Dieu, comme Abraham a reçu Sarah de la main de Dieu. Tout ceci est une longue tradition en Israël, qui aboutit à ce cas ultime et combien sublime. Mais il y a un autre élément qui manque et qui est encore plus stupéfiant. C'est précisément ce que l'on peut appeler la sexualité, mais dans l'espèce, dans ce cas précis, cependant, l'accomplissement de la descendance est assuré et donné par Dieu. Le Christ naît de la Vierge Marie, par le don de l'Esprit Saint, par la force de l'Esprit Saint. Et la question centrale qui est posée à ce couple ainsi appelé à une vocation divine, et que se pose, comme le récit de l'Évangile nous le montre, l'un et l'autre, chacun à sa façon, Marie ne comprend pas et bute devant ce qui lui paraît impossible. Et l'enfant lui est donné en raison même de sa remise, de son acte de foi en la puissance de Dieu. « Qu'il me soit fait selon ta volonté », dit-elle, après que l'ange lui ait dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Et ainsi, comme elle le chante elle-même dans le Magnificat, c'est une grâce qui est faite à l'humble servante, qu'il relève, qu'il exalte. Mais de son côté, dans le récit que nous en fait saint Matthieu, saint Joseph ne veut pas prendre pour lui cet enfant qui vient de Dieu. Il s'en juge indigne. Et le récit nous montre comment l'ange de Dieu invite Joseph à ne pas craindre de recevoir ce don, car il doit recevoir comme un don de Dieu l'enfant qui est né de l'Esprit-Saint. Et il doit le recevoir pour lui-même, lui qui représente le peuple, lui qui est ainsi le juste par excellence, parmi cette lignée de justes et de pécheurs, et qui reçoit, lui, le Saint de Dieu. L'humanité nouvelle, née de la Vierge Marie. Ainsi, vous le voyez, il y a dans ce couple singulier comme l'effacement des facteurs qui nous semblent aujourd'hui essentiels et la mise en lumière des facteurs qui nous semblent les plus extravagants et qui pourtant sont le véritable fondement. Il n'y a pas le choix mutuel de l'affectivité, semble-t-il, qui prédétermine la décision de se donner l'un à l'autre. Ils sont donnés l'un à l'autre par la puissance de Dieu. Qu'en conclure ? C'est que lorsque un homme et une femme décident de se marier ainsi et sont appelés à ouvrir ce chemin sacramentel à leur amour, ils doivent considérer que leur amour désormais n'est plus seulement le fait d'avoir été ému par la beauté d'un regard ou réconforté par je ne sais quoi de venant de l'autre, ou bien intéressé par tel aspect de sa personnalité, ou bien séduit par tel autre élément de son comportement, ou bien ému dans ses sens ou dans sa sensibilité. Tout cela, bien sûr, explique le choix finalement auquel ils vont se déterminer. Mais à partir du moment où ce choix est comme pris par Dieu dans le sacrement qu'ils vont se donner l'un à l'autre, ils doivent se considérer comme donnés l'un à l'autre par Dieu et se recevoir de Dieu. La source de leur amour est désormais en eux-mêmes, mais en eux-mêmes parce que donnés par Dieu, que l'autre leur est donné et que Dieu par Dieu et que Dieu leur donne la force de se donner à l'autre. Ainsi, ce qui paraît comme un surcroît nous est donné dans sa sainte famille comme le signe de l'essentiel, l'essentiel qui va transformer la réalité et la transfigurer. De la même façon, une fécondité sans sexualité, quel cas extraordinaire, extravagant, me direz-vous, ça va à l'encontre de toutes les normes et de tout ce qui est logique, certes. Mais cela montre comment la fécondité elle-même devient ainsi un signe spirituel alors même que normalement elle est liée à l'exercice de la sexualité. Et cela nous montre, dans ce cas extrême, qu'il s'agit bien là d'un don de Dieu auquel l'homme et la femme doivent pouvoir aspirer. Bien sûr, en ce qui regarde la naissance du Fils de Dieu fait homme, il s'agit de celui qui va nous enfanter, nous, comme enfants de Dieu, par le don de l'Esprit, en faisant de nous ses frères et ses sœurs. Il ne faut pas aller jusqu'au bout de la comparaison, sinon nous déraperions complètement. Mais il permet de comprendre comment l'union de l'homme et de la femme s'inscrit ainsi dans le mystère de la nativité, à l'intérieur de toute la perspective de la rédemption et de la délivrance de l'homme et de la femme. Et du coup, nous comprenons comment cet amour n'est pas un conte de fées, mais est une force de délivrance et de rédemption, et s'inscrit dans l'œuvre du pardon des péchés et de la résurrection des morts. Car ce serait être naïf de penser que la vie était semblable au conte de fées. Ce serait une vision tout à fait chimérique, irréelle, et ceux qui partiraient ainsi dans la vie sont sûrs d'avoir de mauvais réveils. Car un jour ou l'autre, ils s'apercevront que la vie n'est ni un jeu radiophonique, ni un conte de fées, ni un rêve. Mais la question est de savoir s'il y a, par la grâce de Dieu, assez de force en nous pour affronter le réel et être capable d'en faire un chemin de bénédiction. Car dire un chemin de bénédiction, c'est dire aussi un chemin de bonheur, le bonheur que l'on reçoit, le bonheur que l'on donne, le bonheur que l'on veut pour l'autre, même quand on est soi-même malheureux. Il faudra, la semaine prochaine, que nous revenions là-dessus en réfléchissant au cas, hélas trop fréquent, où l'un ou l'autre des époux, comme l'un ou l'autre des parents par rapport aux enfants, se trouve dans la situation de celui qui, malgré lui, en dépit de tout ce qu'il a pu faire, se trouve dans une situation de rupture et d'abandon, et qui amèrement trouve que vraiment cela n'est pas juste, puisque ce n'est pas cela qu'il espérait, et ce n'est pas cela dessus qu'il comptait. Mais si vous le voulez bien, nous continuerons notre réflexion la semaine prochaine.